Je vais vous raconter, il y a quelque temps, j'ai lu un article, je ne vais pas tout lire l'article, sinon à 14h on est encore là. J'ai sélectionné quelques extraits qui va introduire ce qu'on va voir ce matin. Il y a quelque temps, j'ai lu un article qui expliquait que dans de nombreuses régions du monde, encore aujourd'hui, on m'entend plus, si on m'entend. L'accès aux soins médicaux et aux traitements rétro-antiviraux, ARV, reste très limité. Bien que des progrès ont été réalisés, grâce à un effort international, les médicaments ARV peuvent coûter vraiment cher. Et ces médicaments permettent en fait à des personnes qui ont le VIH-SIDA de mener une vie quasi normale. Et c'est très compliqué, surtout pour des personnes qui habitent en zone rurale. Le VIH-SIDA est encore fortement stigmatisé aujourd'hui dans notre société, souvent en raison de croyances culturelles, voire religieuses. Et surtout parce qu'on a peur de la transmission du virus. La stigmatisation peut entraîner un isolement social, l'exclusion des familles, de la communauté, une rupture dans les relations, au travail, de la discrimination et même parfois dans des établissements de santé. De nombreuses personnes vivant avec le VIH-SIDA sont rejetées par leur famille, ce qui peut leur pousser à vivre seules. Cela engendre des tensions au sein des familles, de traumatismes psychologiques. Ces personnes sont souvent confrontées à une pauvreté accrue, l'incapacité de travailler à cause de la maladie, ainsi que le coût élevé des traitements peuvent pousser ces personnes et leurs familles dans une situation très précaire, voire difficile. La peur de la mort précoce, l'isolement social sont souvent des problèmes qui se retrouvent vers ces personnes et en fait ça cause des problèmes mentaux, de la dépression, de l'anxiété, de stress post-traumatique, toutes ces choses-là, de troubles psychologiques sont courants. Et ces personnes vivent en plus de ça dans la culpabilité. Souvent parce que, en fait, elles ont contracté le virus par voie sexuelle. Ou même parce que parfois, elles ont transmis le virus à leurs enfants ou à leurs proches. Et en fait, la liste, elle peut être longue, hein. Elle peut vraiment être longue, mais ce que j'ai appris en lisant cet article, et c'est ce que je voudrais aussi vous dire ce matin à travers l'histoire de quelqu'un qu'on va voir aujourd'hui, par cet exemple, je voudrais attirer votre attention sur certaines personnes dont parle la Bible. En fait, ces personnes vivaient exactement la même chose. Exactement la même chose. Et pourtant, Jésus est venu justement pour ces personnes-là. Et donc j'aimerais qu'on retienne ici en partant, non pas l'histoire, mais qu'on retienne que Jésus peut et veut nous purifier. Jésus peut et veut te purifier aussi. Et donc on va lire dans Marc 1, verset 40 à 45. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec vos Bibles, sinon c'est affiché. Je vais lire. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer haut la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Le texte de ce matin, je l'ai découpé en trois parties. L'humble confiance d'un lépreux, verset 40, la compassion guérissante de Jésus, 41-42, et troisième partie, la désobéissance du lépreux, verset 43 et 44. Revoyons un peu le verset 40. Le verset 40 dit ceci, « Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux en le suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Si tu le veux, tu peux me rendre pur. En fait, nous assistons à une scène dès le début de l'évangile. On est au premier chapitre de l'évangile de Marc, hein. Directement, Jésus est en action. Marc rentre dans son évangile, on voit un Jésus qui est appelé fils de Dieu, appelant ses premiers disciples, annonçant la bonne nouvelle de Jésus, de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, hein. Appelant ses premiers disciples, enseignant avec autorité. Et cette autorité se manifeste comment? En guérissant les malades et en chassant les démons. Et nous arrivons après une journée intense à Capernaum, un temps de prière en solitude. Jésus affirme à Pierre et aux premiers disciples qui sont avec lui, sa mission en fait est d'annoncer la bonne nouvelle dans toutes les villes et villages de Galilée. C'est dans ce contexte de prédication itinérante, de guérison publique, d'exorcisme, qu'un homme, un lépreux, s'approche de lui et vient à sa rencontre. Il faut avoir une sacrée dose d'audace et surtout de foi pour un lépreux de venir à Jésus en public et de se présenter à lui ainsi. Qu'est-ce qui le pousse de faire ça selon vous? Qu'est-ce qui peut le pousser à faire ça? Peut-être certainement le désespoir de sa situation, n'est-ce pas? Il est désespéré. Il a peut-être plus rien à perdre. Il s'approche de Jésus. Il fait fi de sa condition. Cet homme était exclu de la communauté à cause de sa maladie. Il ne pouvait plus rendre un culte à Dieu. Il ne pouvait plus faire d'offrande à Dieu. Il ne pouvait plus aller au temple. Il ne pouvait plus participer aux réunions de prière. Il ne pouvait plus assister aux enseignements de la Torah. Il ne pouvait plus aller à la synagogue. Comment le savons-nous? Par la nature de sa demande, regardez bien ce qu'il dit. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans la culture juive du premier siècle, la lèpre n'était pas simplement une maladie. Elle n'était pas simplement une maladie physique. En fait, elle était plus que ça. C'était une réalité qui touchait l'individu tout entière. Le terme lèpre, dans la Bible, voilà ce que dit un commentaire de la Bible. Le terme lèpre couvrait diverses affectations cutanées dans la Bible. Le mot lèpre en hébreu, tsarat ou alors lépra en grec, ne désignait pas nécessairement la maladie des Hansen telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, c'était quelque chose qui représentait, ça pouvait être n'importe quelle maladie de la peau, de l'eczéma, psoriasis ou parfois même des mycoses très graves. Et on utilisait aussi le même terme pour les maisons ou peut-être pour les murs. Pour les vêtements, lèpre. Et ça, on le sait parce que Lévitique 13 et 14 nous donnent un certain nombre de détails sur ces maladies. Toute personne suspectée de telles maladies était examinée minutieusement par un prêtre et parfois à plusieurs reprises tout en étant à l'isolement. Et si la personne était déclarée impure, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était exclue de la communauté. Elle devait vivre à l'écart. Porter des vêtements déchirés, se décoiffer la tête, se couvrir les parties inférieures du visage et crier cette phrase à chaque fois qu'elle s'approchait des gens, impur, impur. Imaginons un peu notre lépreux qui débarque à plein palais, au marché, il serait obligé à son arrivée de crier, impur, impur. Il arrive là, d'accord? Et à son approche, les gens s'écartaient. Il changerait d'itinéraire, il l'éviterait, les gens s'éloigneraient au possible de lui. Et quand il y avait du vent, c'était encore pire. Les gens lui jetteraient de la nourriture, du pain de loin. Il ne pouvait plus serrer la main de personne, ni de ses amis. Plus prendre un café à la terrasse, ça c'est dur ça. Il ne pouvait plus aller au cinéma. En fait, il ne pouvait plus faire de contact physique avec personne. Prenons notre lépreux de plein palais, et ramenons-le à l'époque de Jésus. Le plus difficile pour cet homme était probablement l'exclusion de la vie religieuse. Car Israël, toute la vie sociale d'Israël était bâtie autour du culte qu'on rendait à Dieu. Étant donné que toute la vie publique était quasiment centrée sur le temple, là vous avez une image à gauche, c'est le camp d'Israël. Dans le désert, il y avait le tabernacle et le camp était littéralement autour du tabernacle. Dieu habitait au milieu de son peuple. D'accord? Et ça, c'est à Jérusalem. C'est une reconstitution de la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. Vous voyez le temple? C'est quasiment un tiers de la ville, là. Et tout était bâti autour du culte qu'on rendait à Dieu. Et donc, les personnes qui avaient la lèpre, les Juifs considéraient qu'ils étaient punis de Dieu. étant rituellement impurs, ils considéraient que ces gens-là, c'est Dieu lui-même qui les punissait, et donc c'est Dieu qui les excluait du culte. Cet homme casse les codes. Il vient à Jésus, et il exprime son souhait. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelques mots montrent l'attitude de cet homme en disant, si tu le veux, il manifeste l'humilité d'un enfant de Dieu. Il manifeste l'humilité d'un enfant de Dieu. Il reconnaît et il accepte la souveraineté de Dieu dans sa vie. Il ne réclame pas la guérison. Il ne considère pas la guérison comme normale, comme un droit à revendiquer. Mais il se soumet à la décision de Jésus. Si tu le veux, il se soumet à la décision souveraine de Jésus. C'est une belle attitude d'humilité, n'est-ce pas ? Vous savez, dans nos milieux évangéliques conservateurs, on a souvent l'habitude de dire « Seigneur Jésus », n'est-ce pas ? Christ est Seigneur. Nous le proclamons, vous savez, le passage au jardin de Gethsémané où Jésus dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Quand il prie, on chante même ces paroles. Est-ce que vous savez ou vous réalisez ce que vous dites quand vous dites « Christ est Seigneur » ? Moi, je ne suis pas certain que je réalise parfois ce que je dis quand je dis que Christ est Seigneur. Cette attitude devrait pourtant être dans mon cœur et me faire réaliser, c'est vrai que dans toutes les situations de ma vie, Christ est Seigneur. Être prêt à accepter la réponse même négative de Dieu. Parce que dans le jardin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il me semble que humainement, Jésus n'a pas eu une réponse positive de la part de Dieu. Et pourtant, il a accepté. Et qui sommes-nous pour refuser la volonté de Dieu? Il me semble qu'on n'est pas au-dessus de Jésus, n'est-ce pas? Et donc on peut faire comme lui, accepter souverainement la réponse de Dieu, que ce soit positif ou négatif. En disant, tu peux me rendre pur, il démontre sans foi en la puissance de Jésus-Christ. Cet homme croit que Christ est totalement capable de le purifier. Il ne doute ni de sa puissance, ni de son autorité. Et même si la maladie semble incurable aux yeux des humains, et ça l'était à l'époque, mais pour lui, rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Cet homme croit que sa situation n'est pas trop impure aux yeux de Dieu. Il a compris quelque chose que l'apôtre Paul enseignera aux Éphésiens plus tard dans Éphésiens 3, verset 20, je ne l'ai pas affiché, vous pouvez voir. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment plus grand que ce que nous demandons et même que ce que nous pensons. Dieu est tout puissant, les amis. Et comme le dit le psaume 115, verset 3, qu'on connaît maintenant par cœur, parce que Franck l'a dit la semaine dernière, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Cet homme exprime une foi vraie, sincère. Il croit en Jésus. Il reconnaît son autorité et s'abandonne à sa volonté, sans se rebeller ni désespérer. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un mélange de foi humble et de confiance. Il rassemble les deux éléments nécessaires au salut. La foi et la repentance, l'humilité, venir humblement à Dieu. Mais son attitude devant Dieu montre aussi qu'il a compris son besoin fondamental. En fait, son besoin fondamental, c'est ne pas de guérir de sa maladie. Je ne sais pas si vous l'avez lu le passage. Il ne vient pas pour dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Marc et Luc racontent exactement la même histoire. Et à chaque fois, ils disent, le lépreux s'approche et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il demande même pas la guérison pour sa maladie. Il demande la guérison pour son âme, en fait. Le fait qu'il demande à Jésus de le rendre pur montre qu'il a conscience de son impureté spirituelle. Il ne pouvait pas rendre un culte à Dieu. Alors il veut être pur pour pouvoir réintégrer le peuple et ainsi pouvoir rendre à nouveau un culte à Dieu. Et c'est cette impureté de l'âme qui rendait son corps impur. Et sa requête est une demande de restauration complète, pas simplement physique, de restauration spirituelle. Maintenant que nous avons examiné la demande du lépreux, Regardons un peu ce que Jésus répond à cette question, versets 42 et 43. Jésus prit des pitiés pour lui, tendit la main et le toucha. Il dit, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta. À l'instant même, la lèpre le quitta. Jésus est pris de pitié pour lui, la semeur, pour cet homme. La colombe traduit par « Jésus ému de compassion pour cet homme ». La seconde 21 dit « rempli de compassion ». En fait, le terme original ici exprime une émotion viscérale. En fait, Jésus est remué à l'intérieur de lui-même. Il éprouve une douleur intense qui vient de tripes. En fait, les entrailles sont prises. Il est mal pour cette personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir de la peur et puis vous ressentez comme s'il y a le ventre qui est noué. C'est ce qui se passe ici avec Jésus. Jésus est donc touché au plus profond de lui par la misère de ce lépreux. Il ressent sa douleur. Il ressent la douleur de cet homme. Il n'est pas distant en fait. Il n'est pas neutre. Il ressent. Et cela doit nous rappeler quelque chose d'essentiel sur Jésus. Il est pleinement humain. Pourtant, Marc nous dit Jésus-Christ, fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui est distant. En fait, Dieu est devenu humain, pas parce qu'il est inaccessible, il est dans son ciel. Non, il n'est pas froid. Il n'est pas inaccessible. Il est là. Alors qu'il aurait pu aussi le guérir à distance. Il l'a fait, hein? Il l'a fait avant, hein? Il aurait pu le guérir à distance, dire un mot et la chose aurait pu s'accomplir, comme il l'a déjà fait. Mais Jésus vient et fait un geste inapproprié. Il le touche. Il le touche. Peut-être que ça ne vous choque pas, mais ce geste était transgressif, car la loi de Moïse interdisait de toucher quelqu'un qui avait la lèpre. Toucher quelqu'un qui avait la lèpre équivalait à se rendre coupable et impur soi-même et donc être exclu aussi de la communauté d'Israël. On peut lire ça dans Lévitique, chapitre 5, verset 2 à 3. Lorsqu'un homme, sans y prendre garde, touche quelque chose d'impur, soit le cadavre d'une bête impure, soit le cadavre d'un bétail impur, soit le cadavre d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsqu'il touche une impureté humaine, quelle qu'elle soit, qui rende impur et qu'il ne s'en aperçoive pas, puis qu'il la prenne, il en sera coupable. Même quand on ne fait pas exprès, hein. Même quand on ne fait pas exprès, on devient coupable vis-à-vis de la loi. Toucher ces lépreux, exposer clairement Jésus à de la souillure. Personne ne touche un lépreux en fait. C'est pour prévenir ça que les lépreux devaient crier à leur arrivée « impur, impur !» Car s'ils touchaient quelqu'un, même de façon complètement non voulue, ça les rendait automatiquement impurs. On peut lire ça dans Lévitique 13, versets 45 et 46. « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur !» Aussitôt qu'il aura la plaie, il sera impur. » Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera où? Hors du camp. Voilà comment MacArthur explique ce passage. Pour éviter de contaminer les autres, le lépreux était mis en quarantaine avec interdiction légale de vivre au sein de la communauté d'Israël. Nombre 5, verset 2. D'après le Talmud, vous savez, l'ensemble de lois juives, le lépreux n'avait pas le droit de s'approcher de quelqu'un de saint à moins de 2 mètres. Et le jour de fort vent, ça j'ai découvert à Genève, l'hiver, quand il y a le vent qui souffle, bon, voilà. Et le jour de grand vent, cette distance était portée à 30 mètres. La mise à l'écart obligatoire rendait la maladie particulièrement atroce pour ses victimes, parce qu'elle ajoutait à la souffrance physique l'éloignement social du lépreux, du reste du peuple, hormis pour les autres lépreux. Cela signifie que cet homme n'a probablement pas été touché par quelqu'un depuis des années. Il faut se rendre compte, hein. Or, Jésus le touche. Jésus touche l'intouchable. En fait, ça montre que Jésus ne craint pas l'humilité, l'impureté. D'ailleurs, ici, on assiste à un renversement de situation. Regardez bien ce qui se passe, les amis. Regardez bien ce qui se passe. Au lieu que Jésus devienne impur, c'est le lépreux qui devient pur. C'est la pureté de Jésus qui contamine l'impur. Et non l'inverse qui se produit. Je me rappelle en la belle année 2020, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez, en février 2020, j'étais un peu malade. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir le médecin. Et c'était au moment où on voyait à la télé qu'en Chine, c'était un peu tendu et que ça commençait à confiner. Nous, ça allait encore. Je suis allé voir le médecin, j'étais malade et elle m'a dit, ce serait bien que tu achètes de masques. Donc je suis allé à la pharmacie, j'ai pris mon masque. D'ailleurs, ça nous a sauvé la vie parce qu'après, il n'y en avait plus. Et nous, on en avait. Et je me rappelle, je sors de la pharmacie avec mon masque, je rentre dans le tram de Dijon, littéralement, hein, les gens se sont écartés de moi. Je me suis retrouvé seul. Ok, bon, très bien. Et donc imaginez maintenant cette scène, nous sommes en plein Covid, en plein confinement, c'est un peu comme si Jésus venait avec son masque, il rentrait à l'hôpital dans cette salle remplie de personnes ayant contracté le Covid, il enlève son masque et il se met tout joyeusement, voulu hein. Il fait exprès là, d'accord? Il arrive et il commence à serrer la main de tout le monde. Il éternue en public. Il fait des câlins à tout le monde. Imaginez un peu cette scène. Par ce geste transgressif, voire choquant, Jésus montre qu'il est au-dessus de la loi. C'est lui qui l'a créé cette loi. Et c'est normal, il est Dieu. Rien ne peut le corrompre. Rien ne peut le rendre impur. Mais ce geste montre aussi une compassion extrême de la part de Jésus, qui prouve que Jésus n'est pas venu éviter les personnes impures. Il est venu pour les rendre pures. Il ne recule devant rien. Il ne craint pas d'être mouillé. Il ne craint pas de mettre les mains dans les cambouis. Il ne recule devant aucune saleté humaine. Aucune de nos situations, aussi sales que soient nos situations, Jésus ne recule pas devant ça. Il porte. Il les endosse. Aucune situation n'est trop lourde pour Jésus. Je le veux. Je le veux, sois pur. Ah, c'était la citation de tout à l'heure. Jésus veut purifier. Jésus veut sauver. Il a envie, en fait. C'est vraiment que... pas qu'il peut, il veut, il a vraiment envie de faire ça, il a vraiment envie de rendre pur. Jésus n'est pas seulement puissant, hein, il est volontaire dans l'action. Son cœur est infiniment bon, rempli de compassion, rempli de miséricorde. Par ce geste risqué, Jésus va restaurer totalement cet homme. Par ce geste, Jésus va restaurer physiquement cet homme. Il va le restaurer émotionnellement, socialement. À partir de cet instant, cet homme peut retrouver la vie normale. Cet homme retrouve sa dignité d'homme. Il retrouve sa dignité d'israélite, membre du peuple de Dieu. Il reprend sa place au sein du peuple. Il va pouvoir retourner à l'église, au temple, participer à nouveau au culte, aux réunions de prière, aux apéros surprises à la fin du culte, au repas fraternel, au groupe de maison. Waouh! Cet homme est entièrement restauré par Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On va voir ce qui se passe dans les versets 43 à 44. Jésus le renvoya aussitôt, après lui avoir fait de sévères recommandations. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé. Mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Car cela... prouvera qui je suis. Mais lui, à peine sorti, s'est mis à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Jusqu'ici, en fait, l'évangile de Marc nous a montré au chapitre 1er, hein, si on fait un peu de contexte, l'évangile de Marc nous a montré que c'est plutôt les démons en fait qui reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, d'accord? Les démons reconnaissent qu'il a quelque chose de spécial, c'est le fils de Dieu, ils disent. Et Jésus les reprend sévèrement. C'est pas à Satan de faire la pub pour Jésus. D'accord? Mais ici, pour la première fois, c'est un humain. C'est une personne qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne. Moi, je trouve ça étrange. Avant de juger son acte de désobéissance, mettons-nous un instant à sa place. D'accord? Mettons-nous un instant à sa place. Jésus nous fait quitter le couloir de la mort. Il retire l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de notre tête. Il nous permet de retrouver une vie normale, de retrouver nos amis, notre famille, notre travail, de retourner à l'église, de retrouver la communauté fraternelle. Bref, Jésus nous permet de retrouver la vie. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Qu'auriez-vous fait à la place du lépreux ou de l'ancien lépreux? C'est une vraie question. Hein? Moi, je l'aurais dit. Franchement, je l'aurais dit. Vous savez, aujourd'hui, on vient de Dijon, notre église d'envoi, on a une amie qui est très malade en ce moment. En fait, elle a un cancer. Aujourd'hui, c'est incurable. Elle a 34 ans. Ils n'ont pas de solution humaine pour elle. Elle est chrétienne, sa famille est chrétienne, elle prie, sa famille prie, nous prions pour elle. Nous n'arrêtons pas de supplier, d'implorer Dieu pour elle. Il n'y a pas de changement aujourd'hui. Et croyez-moi, je rêve vraiment de ce jour où elle va nous annoncer « Je suis guéri ». Et c'est un miracle de Jésus. Vous pensez vraiment que je vais me taire? On prie pour Samia. On prie pour elle. Imaginez quand elle nous dise « Je suis guéri ». Nous allons nous taire. C'est presque cruel de demander à un ancien lépreux, à un ancien condamné à mort, de cacher sa liberté, sa libération. De demander à un cancéreux en phase terminale de se taire parce qu'il est guéri. De ne pas voir le miracle qui s'est passé dans son cœur, dans sa vie. Et pourtant, cette interdiction de Jésus avait un sens. Jésus voulait premièrement prouver sa messianité aux responsables juifs. Au verset 44, il dit « Cela leur prouvera qui je suis. » Étant donné que cette maladie était réputée incurable et que seul Dieu pouvait guérir quelqu'un qui avait la lèpre, quelque part, se montrer au prêtre qui allait reconnaître le caractère miraculeux de cette guérison, en fait, rendait témoignage à Jésus. Le prêtre aurait vu qui il est réellement Jésus. Et aussi, en lui demandant en premier d'aller voir le prêtre et de se conformer à la loi, Jésus a accumulé des preuves en fait sur sa divinité, qui augmentait en fait la responsabilité de chefs juifs et des prêtres juifs. Et ça mettait en évidence leur incrédulité de ne pas croire en lui. En plus d'être humain, en fait Jésus respectait la loi. C'est la première chose qu'il fallait faire. Deuxièmement, Jésus voulait montrer que la foi et l'obéissance sont inséparables. La foi et l'obéissance sont deux choses inséparables. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Jésus n'encourage ni le triomphalisme, vous savez, « Oh, mais je suis guéri !» Il n'encourage ni le stoïcisme, « Dieu m'a guéri. Voilà ce qui m'est arrivé. » Non. Mais il demande simplement l'obéissance ici. Il lui demande d'aller voir le prêtre. Il lui demande d'obéir à la loi. Suivre Jésus ne nous dédouane aucunement de l'obéissance. Nous devons obéir à la loi de Jésus, puisqu'on est des enfants de Dieu. Au contraire, obéir à la loi de Dieu, c'est la marque même du disciple. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit à ses disciples et aux personnes qui croiront en lui, en l'évangile, en la bonne nouvelle, d'obéir à quoi? À toutes les prescriptions que je vous ai dites. C'est ce que Jésus attend de nous. L'obéissance n'est pas une option pour un disciple. C'est sa manière d'être. Tu es disciple de Jésus, tu dois obéir au Maître, au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de foi authentique sans obéissance authentique. Les deux sont inséparables. La foi doit être démontrée par les œuvres. Éphésiens 2, verset 8 à 10 nous dit que nous sommes sauvés par la foi pour les œuvres, pour accomplir les œuvres. Et troisièmement, Jésus voulait être suivi comme un sauveur et non comme un guérisseur. La troisième conséquence de cette désobéissance, c'est que, en fait, c'est le danger d'un zèle mal encadré. L'homme désobéit, proclame haut et fort. Le terme kéruso en grec nous dit, en fait, il proclame comme un héros. Partout, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. En fait, il veut bien faire. Il est enthousiaste, on comprend, on reconnaît. Mais il désobéit. Il ne suit pas les instructions de Jésus. Or, ce zèle mal orienté entrave la mission de Jésus. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne pouvait plus entrer dans les villes et les villages. Or, il est justement venu pour ça. Il doit désormais se tenir à l'écart, dans des lieux déserts, en dehors de la ville. En parlant trop tôt, il empêche Jésus de proclamer lui-même la bonne nouvelle dans les villes et les villages comme il le souhaitait. Vous savez, notre zèle doit être encadré. La sincérité est une excellente chose. Mais elle ne suffit pas. On peut être sincèrement dans l'erreur. Enfin, je ne sais pas si vous me croyez. On peut vraiment être sincèrement dans l'erreur. Un bon désir de témoigner peut produire des conséquences négatives s'il n'est pas guidé et s'il n'est pas au respect de la parole de Dieu. Franck nous a rappelé il y a 2 semaines le cas d'Ouza. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament? Il voulait bien faire, foudroyé par Dieu. Qu'est-ce que je voudrais qu'on apprenne en partant d'ici? Premièrement, de venir à Jésus. Viens à Jésus dans la confiance et dans l'humilité. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il reconnaît à la fois la puissance de Jésus, tu peux, et sa souveraineté, si tu le veux. N'hésitons pas à venir à Jésus avec notre misère, nos doutes, nos blessures, nos dépendances, notre honte, nos maladies. Ne doutons pas de la puissance de Jésus à transformer notre cœur, notre physique. En fait, il veut vraiment faire ça, c'est son désir. Il veut vraiment le faire. Approchons-nous de lui avec confiance, même quand nous sentons qu'on est impur, on est indigne. Et souvent, c'est le cas. Il est justement venu pour rendre notre pureté, pour nous rendre notre dignité. En fait, Jésus veut guérir les zones d'ombre de notre cœur, que nous cachons à nous-mêmes ou aux autres. Jésus ne craint pas la saleté. Jésus ne craint pas notre impureté. Il vient justement pour nous purifier. Il ne vient pas pour nous condamner. Il vient pour nous restaurer. Le lépreux n'est pas seulement guéri ici, il est rendu pur. Il peut réintégrer la communauté, retrouver une identité nouvelle. Jésus ne restaure pas à moitié. Il le fait totalement. En fait, quand Jésus nous restaure, il nous fait intégrer dans la famille de son Père. La Bible dit, il nous fait asseoir avec lui à la droite de Dieu. Waouh ! Touché par Jésus, tu deviens une personne restaurée. Tu n'es plus défini par ton passé. C'est fini ça. Ou ta maladie, ou tes addictions, ou tes problèmes de cœur, tes problèmes de comportement. Non, ça c'est fini. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Écoutez bien ça, verset 11, « C'est là ce que vous étiez. » Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est notre identité nouvelle. Nous avons été lavés, sanctifiés par l'Esprit de notre Dieu. Viens à Jésus dans la confiance de ce qu'il a fait pour toi. Marc nous fait remarquer à la fin de ce passage un peu de façon ironique que l'ancien lépreux est réhabilité et donc il peut librement entrer en ville, n'est-ce pas? Et pourtant Jésus ne peut plus y entrer. Finalement, ce passage nous montre que Jésus prend la place du lépreux. Jésus est exclu pour que cet homme soit réintégré. N'est-ce pas une belle image de l'évangile, ça? Remarquons le retournement de la situation ici. Le lépreux qui était exclu, isolé, peut retourner librement en société, proclamer haut et fort dans la ville à qui veut l'entendre, alors que Jésus doit maintenant rester dehors, dans des lieux déserts, à l'écart. En fait, dès le premier chapitre de l'évangile de Marc, la Bible nous montre la mission principale de Jésus à travers cet échange symbolique. En fait, Jésus est venu prendre la place de l'exclu. Tu étais exclu. Et Jésus est venu prendre ta place pour que tu sois réintégré dans la maison de Dieu. Il purifie les impurs. Il veut nous rendre purs. Il veut que nous puissions réintégrer le peuple de Dieu. Voilà une image saisissante de la croix. Jésus prend sur lui notre exclusion, notre honte. Il prend sur lui notre impureté. Il nous réintègre dans la communauté de Dieu. Et le Père se sépare de lui à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a porté notre saleté. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Troisième application et dernière, viens à Jésus dans la confiance de la prière. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. En fait, cette phrase ressemble à une prière, n'est-ce pas? Ce n'est pas une tentative de convaincre Dieu, hein, on a vu, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, c'est un acte de confiance, un acte d'abandon. On vient simplement entre ses mains. Lorsque Jésus entend ces cris, il ne s'en détourne pas, au contraire. Il voit notre cœur, il répond avec compassion, il nous touche. Il nous touche, comme il l'a fait pour cet homme. Jésus n'est pas repoussé par notre impureté, par l'odeur nauséabonde de notre péché. Au contraire, il s'en approche, il vient pour nous purifier. Et même si Jésus ne change pas instantanément la situation de notre vie, mais en fait, en vrai, la prière nous transforme. Parce que la prière, elle nous apprend à être dépendants de Dieu. De crier à Jésus. Voilà déjà une transformation de notre vie. La prière nous apprend à dépendre de Christ, à dépendre de sa volonté. En fait, ma prière pour nous ce matin, c'est que ce message ravive en nous l'esprit de prière, le désir de prier, non comme une obligation, hein, mais comme un vrai chemin de foi, comme un vrai chemin de piété, où l'on vient rencontrer Dieu, un Dieu compatissant, plein de bonté, un Dieu puissant, qui veut vraiment nous rendre purs, qui veut nous toucher au cœur. Il a vraiment envie de faire ça.